Vous savez, il y a quelque chose de terrifiant à lire aujourd'hui, une dépêche ou un entrefilet sur l'avortement. Rien que le mot, avortement, parce que ça dit quelque chose sur nos acquis, qui n'en sont en réalité jamais, qui sont sans cesse menacés. C'est tout le problème avec l'acquis, le mot est mal choisi. Vous savez, dans tous les domaines, universitaires, professionnels, mais aussi politiques, les acquis doivent toujours être validés et revalidés, parfois à l'infini. Rien n'est jamais acquis, comme dit le poète. Il faut sans cesse revenir en arrière, composer avec des remises en question, des doutes, des régressions, des retours du bâton. Je pense à ce livre fondateur de la journaliste américaine Suzanne Faludi au début des années 90, ce livre qui s'appelle Backlash, où elle explore, au fil d'une enquête linguistique, politique, culturelle, comment les droits des femmes qui ont été acquis sont sans cesse soumis à une riposte, à une contre-offensive, à une réaction dans tous les sens du terme. Et ça vaut en réalité pour toutes les avancées qui bénéficient aux minorités sociales, économiques, culturelles, politiques. Elle écrit, Suzanne Faludi, sur ce prix énorme que la société leur fait payer pour leur avoir accordé quelques maigres faveurs. Elle parle de ces contre-coups, de ces reflux, de ces inévitables ressacs à chaque vague de progrès ou d'émancipation, au point de se demander parfois, c'est terrifiant, si l'on n'avance jamais.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, que tient pour acquis mon invité d'aujourd'hui. Dramaturge, romancière, le succès de Bakita il y a 4 ans l'a imposé enfin comme un grand nom du roman contemporain. Le Gosse, son nouveau livre vient de paraître, c'est l'histoire glaçante d'un petit Parisien livré à la cruauté d'un système dit de protection de l'enfance dans l'entre-deux-guerres. Bonjour Véronique Olmy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La question que je me pose, est-ce qu'on n'avance jamais ou est-ce que chaque avancée s'accompagne de contre-coups, de retour du bâton, de régression?
Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un inconscient collectif très fort et que donc, quand il y a une avancée dans la société, il y a toujours quelque part cet inconscient collectif qui racle les fonds, là, comme ça, et qui dit non, c'est pas possible, parce qu'il y a une grande peur. Il y a une grande peur, et notamment de la femme, quand on parle de l'avortement, c'est la peur de la puissance de la femme. Françoise Héritier dit que c'est parce qu'elle est fertile qu'elle fait peur, la femme. Et donc, on dirait toujours que il y a un feu qui n'est jamais éteint et qui s'allume dès qu'on pense que ça y est, on est arrivé quelque part, hop, ça arrive. Et là, par exemple, c'est bon, aux États-Unis, dans certains États, et en Pologne, pour parler de l'Union européenne.
Vous appartenez à une génération, Véronique Olmy, qui a assisté à la dépénalisation de l'avortement. Quelle conquête est-ce que ça a été?
Mais c'est une conquête qu'il faut rappeler, parce que comme tous les acquis, eh bien on pense les générations d'après, et il faut bien qu'elles aient quand même quelques avantages, naissent avec quelque chose qui est établi, et donc on peut pas se rendre compte de ce que c'était désirer quelqu'un, c'est possiblement être enceinte. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Est-ce qu'on pouvait jouir en ayant peur? C'est inimaginable, en fait, jusqu'où ça va.
Alors,
concrètement.
À propos d'imagination, vous imaginez que ce droit puisse disparaître dans certains pays aussi proches d'une autre, et surtout qu'il soit toujours remis en question, y compris en France?
Oui, parce que il y a toujours, c'est très très long, en fait. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, que le système patriarcal s'effrite et qu'il y ait comme ça cette mise à niveau d'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai l'impression que ça va être très 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 long. Et ça, la liberté de la femme, elle passe par la liberté de son corps. Donc, on l'attaque là où on peut. C'est un moyen de, c'est le plus fort moyen de répression.
Alors, cette question de l'avortement, Véronique Olmy, c'est ce qui fait basculer la vie de l'enfant dont vous racontez l'histoire dans Le Gosse, puisque sa mère meurt suite à un avortement clandestin. Dans la France de l'après-guerre, avorter, quel crime est-ce que c'est?
Ben, c'est un crime contre la nation. En 1920, il y a eu une loi qui a été votée pour la pénalisation de l'avortement et de toute propagande anticonceptionnelle. Ça va très très loin. Parce qu'en fait, eh ben, il fallait repeupler la France. Mais c'est pareil après la Seconde Guerre mondiale. Hein, De Gaulle a demandé à ce qu'on fasse 12 millions de beaux bébés. La femme, elle est là pour repeupler, pour faire des soldats. C'est-à-dire elle enfante possiblement de futurs mort très jeune. Et il faut comme ça. Donc c'est un crime contre la nation. Vous privez pas la mère d'un enfant, vous privez l'État.
Mais de quel crime l'État français se rend-il coupable, lui, à travers notamment la politique de protection des enfants pauvres qu'il met en place? Parce que c'est ça qui est intéressant.
Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'était de décrire comment, à partir de bonnes intentions, on crée l'enfer. C'est-à-dire que, à partir des années 1830, 1840, l'État a dit, oh bon, on va, ça va plus être les organismes de charité à la Saint-Vincent de Paul qui vont s'occuper des enfants, des vagabonds, des enfants dans les rues, des enfants abandonnés, des orphelins. Tous ceux qui dérangent l'ordre social, on va s'occuper d'eux. Alors au départ c'est bien, n'est-ce pas? Et puis ils se sont dit, les pauvres, ils sont enfermés avec les adultes dans des prisons qui étaient vraiment lamentables, où on dort et on mange et on pisse sur la paille, on va les mettre à part, on va les protéger. Et puis en fait on crée l'enfer, on crée l'enfermement.
La prison de la petite Roquette.
La prison de la petite Roquette, c'est quand même inimaginable. On se dit, voilà, on va créer, c'est le système du panoptique. Chaque enfant est tout seul dans sa cellule, voilà, il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de chanter, il n'a pas le droit de tousser, il n'a pas le droit à sa voix. Sa voix s'éteint et on se dit, ben comme ça il est protégé des autres puis il va réfléchir à sa faute.
Oui, c'est la prison où Jean Genet a d'ailleurs été incarcéré avant d'être envoyé à la colonie pénitentiaire de Maitray, dont vous parlez également. Mais pour quelle raison, Véronique Olmy, les enfants sont-ils isolés les uns des autres en fait? À quoi ça sert?
Au départ, on se dit, ils ne vont pas avoir les mauvaises influences.
Oui.
Voilà, ils vont être protégés, on va les instruire. Au départ, il y a que des bonnes intentions. Victor Hugo visite la prison, il la loue, il y a Lamartine, enfin vraiment c'est des philanthropes, il y a que des hommes, hein. Parce qu'à l'époque, c'est l'autorité paternelle. Légalement, le père peut faire enfermer son fils ou sa fille parce que il a désobéi ou il est amoureux de la mauvaise personne, enfin tout ce qu'il veut. Et donc il y a comme ça, l'enfant est un sujet, en fait. Donc, on décide pour lui ce qui va être bien. Et puis, ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il y a cette certitude de l'hérédité. Que les enfants pauvres, les enfants qu'on enferme, viennent de mauvaises femmes, de putains. Par exemple, les gamins de Paris qui étaient placés, on les appelait les culs de Paris. Et c'était pas une insulte, c'est ça qui est terrible.
C'est passionnant, ce sont des pages absolument passionnantes de votre livre Le Gosse. Je dois dire, cette prison, elle a été rasée, remplacée par un parc, qu'il ne reste plus rien qui vienne rappeler l'existence de ces lieux. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça?
Oh, moi, je suis allée plusieurs fois dans ce parc. Alors, la première fois, je vous assure, c'est... Oh, vous avez... Il reste encore l'entrée et on se rend compte au bout d'un moment quand on se promène dans le parc qu'il est rond. Et puis surtout, il y a des écoles qui se sont bâties à côté. Et moi, une fois, j'y suis allée et c'était l'heure de la récré. Alors, vous savez, le bruit que ça fait, les gamins dans la cour de récréation, ils crient, ils jouent, ils se poursuivent. Et c'était très étonnant parce que pour moi, je crois beaucoup aux lieux, je crois beaucoup aux énergies, à ce qu'ils gardent, même quand les murs sont abattus. Et c'est, il y a beaucoup de gens hein, qui ont pétitionné pour que ça soit pas détruit, pour qu'il en reste quelque chose, comme à Fontevraud par exemple, cette centrale. Jean Genet fait croire qu'il a été, mais peu importe. Et, il a tous les droits. Et où, en fait, on peut se rendre compte. Mais enfin, vous savez, je pense qu'on pourrait aussi aller visiter les prisons aujourd'hui. Hein.
Il reste, en tout cas, des fantômes, c'est ce que vous nous dites.
Ouais, il y a des fantômes.
Qu'est-ce que c'est, au fond, un enfant pour vous, Véronique Olmy? L'enfance qui est un thème que vous avez exploré dans plusieurs de vos livres. Je pense à La petite fille aux allumettes, à Bakita, mais aussi aux évasions particulières. Qu'est-ce que ça représente?
Mais c'est nous. C'est-à-dire, je pense que la façon dont j'avais le trac de venir à votre émission, c'est l'enfant qui a peur. C'est pas l'adulte. L'adulte, elle parle là maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la part d'enfance, pas seulement chez les artistes, mais chez tout le monde. Mais je crois que les artistes, on en a plus conscience et on travaille avec. C'est comme un état qui n'est pas encore totalement formaté par l'éducation, par la société dans laquelle on grandit. Et c'est un état, c'est notre état permanent,
je pense. Écrire à hauteur d'enfant, ça passe par quoi? Comment on fait?
Ah, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut pas faire de mots d'enfant, il faut pas avoir un langage particulier, Il faut être assez humble. C'est fou parce que, disant ça, j'ai l'air de me vanter, mais je crois qu'il faut s'effacer derrière le môme, en fait.
C'est qu'il y en a une qui est jamais à hauteur d'enfant dans cette émission, Véronique. Elle n'est jamais à hauteur de quiconque, d'ailleurs. C'est évidemment la culture et son actualité ras des pâquerettes. Quand elle n'est pas plus bas que terre, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 8 février? Quand il n'y en a plus, il y en a encore ce matin, à nouveau en exclu dans Boomerang, on peut vous annoncer que le festival Rock en Seine s'apprête à dévoiler 17 nouveaux noms pour compléter son édition 2022. En plus de Stromae, Arctic Monkeys ou Rage Against the Machine, le domaine de Saint-Cloud près de Paris pourra pulser au son d'Isia, Lala Ace, November Ultra, Soul Wax ou encore Vendredi sur Mer. Toute la prog et les infos à retrouver sur rockenscene.com. Come on!
Je dirais que nous en avons rencontré plusieurs et que nous avons fait une synthèse de toutes les folles Amanda que nous avons croisées sur notre route.
À Boulevard et la Manière, figure incontournable du théâtre de Boulevard, l'auteur Jean-Pierre Grédy s'est éteint. Il avait 101 ans. Avec son complice Pierre Barillet, ils formaient un tandem à succès, passés maîtres dans le quiproquo scénique et les réparties cinglantes. Ensemble, Barillet-Grédy avait signé plus d'une trentaine de pièces, dont plusieurs avaient été adaptées à Broadway et au cinéma, notamment Potiche, portée à l'écran par François Ozon. Je pense aussi à Peau de Vache et Fleurs de Cactus, récemment reprises et mises en scène par Michel Faux. Rideau.
Écoute, connard. Ton numéro de cirque, c'est fini. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée.
Yippee-ki-yay, motherfucker! Les Razzie Awards, genre d'anti-Oscar qui récompense le pire du 7e art, viennent d'annoncer leur nomination 2022 Originalité de l'année. Une catégorie a été créée spécialement pour Bruce Willis. L'acteur américain a tourné dans pas moins de 8 longs métrages en 2021, tous considérés comme des nanars par la critique et les organisateurs des Razzie. Un record en vrac dans le reste de ces nominations. Jared Leto dans House of Gucci, Ben Affleck dans The Last Duel ou encore Megan Fox pour Midnight in the Switchgrass. C'est dur, mais c'est drôle.
Présence 2022, portrait de Tristan Muraille.
Et enfin, acte de présence dès aujourd'hui et jusqu'au 13 février, notre maison de la radio et de la musique accueille la 32e édition du festival Présence, consacré à la musique de notre temps et à la création. Au programme, près d'une douzaine de propositions, parmi lesquelles la mise à l'honneur du compositeur Tristan Muraille, maître de la révolution spectrale ou encore la première mondiale de la pièce Ex Machina, créée par Frédéric Morin et Steve Lehman et jouée par l'Orchestre National de Jazz. C'est très chic. Et la romancière Véronique Colmy, invitée de Boomerang ce matin. Pour ce roman, Le Gosse, l'histoire, je le rappelle, d'un petit garçon pupille de la nation qui n'a plus de famille et qui va devoir se construire par ses propres moyens et en dépit des mauvais traitements qui lui sont infligés. La famille, quel lieu de construction individuelle est-ce que ça a été pour vous? Tiens.
La famille, moi je suis d'une famille nombreuse, on était 5 enfants, donc c'est intéressant parce qu'il y a à la fois une solidarité, à la fois il faut trouver sa place, mais ma famille était très grande, j'avais 36 cousins et d'un seul côté, hein, en tout on était 70. Et donc moi j'ai passé ma vie par exemple à me dire il faut que je sois la préférée de ma grand-mère maternelle. Moi je crois que j'y suis arrivée, mais c'est génial parce que ça demande, en fait c'est comme un microcosme de la société, tout de suite vous vous dites bon, je dois rester moi-même mais il faut qu'on me voie. Ouais. Allez, qu'on me voie quand même, on était si nombreux.
Dites-moi, dans cette famille, quelle place avaient les arts?
Alors, c'était une famille qui lisait beaucoup, donc on échangeait énormément les livres. Et c'est une famille, par exemple, y a les repas de famille, c'était on chante l'opéra. Vous savez, un peu à la russe, les Russes, ils se lèvent tout le temps de table pour porter un toast, chanter, dire un poème, puis hop, on continue à manger. Et ben c'était ça, ma grand-mère écrivait des pièces de théâtre, alors on les jouait, mon grand-père les mettait en scène de temps en temps à Nice, enfin bon. Et puis, ils écrivaient des poèmes, mais ça restait... pas professionnel.
Je vous pose la question parce que ce que vous nous racontez dans Le Gosse, mine de rien, c'est aussi l'histoire d'une rédemption par la musique, en l'occurrence. Et la question qu'on se pose tout de suite, c'est de quoi sauvent les arts? On en parlait il y a presque un an, jour pour jour, avec une comédienne qui vous est chère, Ariane Ascaride. De quoi ça sauve?
Oh ben ça sauve de tout, parce que ça nous ouvre la fenêtre personnelle de l'imaginaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une participation au monde. On peut l'interpréter et on peut décider de notre réalité, mais chacun le fait à minima.
Donc on peut faire un pas de côté, en fait.
C'est-à-dire qu'on peut, et oui, c'est ça, on fait un pas de côté et on peut décider que la marge dans laquelle ce pas de côté nous a emmené, ça va être notre sillon et qu'on va le creuser encore et encore. C'est une chance.
C'est ça que vous cherchiez, Véronique Colmy, quand vous avez eu le désir de devenir comédienne? Parce qu'il se trouve que vous avez fait des études d'art dramatique.
Ben, vous parliez tout à l'heure de Barillé et Grédy. Moi, quand j'étais petite, on regardait au théâtre Ce Soir. C'était ma grand-mère, je me souviens, elle préparait son cognac, le chocolat, on s'asseyait bien dans les fauteuils. Et c'était bien. Alors, elle était toujours choquée parce que c'était toujours l'adultère, tout ça.
C'était le cognac, Véronique.
Ah oui, peut-être. Elle était très catholique et tout, mais quand même, on se régalait. Et moi, j'avais vu Adorable Julia avec Daniel Secaldi, Madeleine Robinson, c'était pas n'importe qui. Je les avais vus à Marigny. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'à un moment, ils se disputent, il y a une dispute de couple, et elle pleure. Alors moi, j'avais 10 ans, et je pleure avec elle. Et puis, tout d'un coup, elle fait, parce qu'elle est comédienne dans la pièce, elle fait, ah, c'est comme ça que je le jouerai. Oh, je me suis dit, c'est ça les comédiens, ou les tricheurs. Et je suis rentrée, j'ai dit, je sais ce que je veux faire.
Quand est-ce que vous avez commencé à écrire?
Bah, quand j'ai su écrire.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que moi, j'écrivais des petites pièces de théâtre, j'écrivais des romans que je finissais jamais, et puis tous les jours, mon journal. Alors, je devais en avoir une cinquantaine de cahiers que j'ai balancés, mais c'est une discipline, et finalement, c'est une façon de respirer.
Non, mais c'est intéressant d'écrire des pièces de théâtre, c'est assez rare, non? L'écriture dramatique, de commencer comme ça.
Ben non, parce que dans ma famille, comme ils écrivaient beaucoup de pièces de théâtre, du coup, je vais en écrire aussi, quoi.
Et puis il se passe quelque chose, ça dit aussi quelque chose sur le texte, hein. Qu'est-ce qui se passe quand un texte prend vie sur une scène de théâtre, lorsqu'il s'incarne dans un corps, dans une voix, Véronique Olmy?
Eh ben on se rend compte qu'on a toujours écrit trop de mots. Ben ouais. Moi, quand j'entends des grands comédiens, j'adore le travail de table. C'est ce qui me plaît le plus dans les répétitions. C'est-à-dire, on lit et puis on est obligé à rien. On découvre. Et là, les comédiens, les grands comédiens, une petite incidente comme ça, ils disent toute l'intention. Alors, il faut gommer, toujours gommer. Ah, ils sont merveilleux.
J'ai l'impression que vous parlez de votre propre écriture. Quand on écrit un roman, le texte qu'on écrit, il est fait pour être dit à voix haute aussi?
Il est fait avec un rythme. Le rythme du roman, c'est la respiration de l'intrigue. Alors des fois, ça peut être des phrases qui font plusieurs pages. Parce que, par exemple, moi je me souviens, dans La pluie, une changée à nos désirs, je décrivais le premier baiser entre les deux futurs amants. Et le baiser prenait plusieurs pages. Parce que ça c'est un tel monde qui vous emmène dans une autre réalité. Et... par contre, il peut y avoir, par exemple, Goss, il est écrit au présent, comme Bakita, parce que c'est des romans du danger, de l'immédiateté, de l'instinct. Donc les phrases sont plus courtes. Et le rythme, c'est le rythme du roman, c'est ça.
Mais les voix, elles sont présentes aussi dans le roman. Elles sont centrales.
Ça, on l'apprend. Je trouve qu'on l'apprend au théâtre, parce qu'au théâtre, on apprend que chaque personnage a sa façon de parler,
oui,
selon son âge, selon son milieu culturel. La vieille babouchka de K.O. Debout, elle va pas parler de la même façon que parler à nous qui jouait la jeune Katia. Enfin, je veux dire. Et ça, il faut. Ça m'a appris ça pour le roman. Par exemple, Bord de mer, c'est pas le même tempo que le gosse.
Et qu'en est-il des voix qu'on n'entend pas, des voix silencieuses, faire entendre ces voix? En l'occurrence, dans le gosse, les voix qu'on n'a pas entendues, qu'on a réduites au silence, puisque les enfants dont vous nous racontez l'histoire n'ont pas le droit de parler, et que l'enfant à l'origine, c'est bien celui qui ne parle pas. Quel enjeu est-ce que c'est pour vous de faire entendre ces voix qu'on n'entend pas?
Ben, c'est moi les retrouver déjà, ça me fait du bien. Et puis, c'est ce qui me bouleverse le plus, le mal fait aux enfants, c'est que j'arrive pas à avoir de distance. Moi, j'écris toujours pour essayer de comprendre ce que je comprends pas. J'ai jamais les réponses, mais au moins de poser les questions, ça m'aide.
Et là, la première question que vous posez avec le gosse, c'est quoi?
C'est pourquoi on s'habitue? Pourquoi on est habitué à ce que les enfants de personne, les enfants placés, abandonnés, pourquoi? On s'est habitué à cette violence, c'est-à-dire que même aujourd'hui, quand on voit, il y a eu beaucoup de commissions sur l'aide sociale à l'enfance, il y a une loi qui vient de passer, et on se rend compte dans tous les reportages, tous les témoignages des anciens enfants assistés, placés, il y a une récurrence de la violence. Et c'est comme si on se dit, ah ben oui, mais c'est les enfants placés. Et donc, c'est presque admis, et ça me pose une question.
On en revient à toute la problématique de l'acquis dont on a parlé tout à l'heure. On va reparler de voix ensemble juste après celle de Trenet en 38. France Inter, Véronique Olmy, Boomerang, ça fait boum!
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y'a du lilas et y'a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
Il n'y a pas de doute, elle est de celles qui font boum. On est quelque part entre la petite souris et la grande tragédienne. L'œil humble et intense, le cheveu vaguelette, le sourire d'une sincérité désarmante, tout en noir, avec des fleurs roses ce matin. La romancière Véronique Olmy, invitée de Boomerang ce matin pour Le Gosse, ce livre placé sous le patronage de deux immenses poètes, à commencer par Jean Genet. Les mots de Genet, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ?
Le vertige. La première fois que j'ai lu Jean Genet, j'étais un peu jeune, un peu trop jeune. C'était Notre-Dame des Fleurs, j'étais choquée. J'ai refermé le livre, j'ai dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte ?»
C'est cette première page, si belle, dans la prison.
Mais oui, mais quand même, quand vous êtes une jeune ado, c'était trop troublant. Et puis, je l'ai repris, évidemment, mais des années après. Et ça me coupe le souffle quand je le lis.
C'est ce que vous cherchez, justement, quand vous écrivez, à couper le souffle, ce vertige.
Ah, moi, est-ce que je cherche, moi, en écrivant ça ? Non, je cherche rien, en fait. Je cherche à être... à creuser mon tunnel, ce tunnel du roman qui est votre obsession, qui est vos jours, vos nuits, c'est comme un sentiment amoureux, c'est-à-dire qu'il faut que tout se rapporte à ça, les livres que vous lisez, les films que vous voyez, et que les gens ne vous parlent que de ça, et les lieux où vous allez. C'est cet état obsessionnel que j'aime. Mais chez Jean Genet, ça coupe le souffle, d'abord parce que c'est très beau, et ensuite c'est très cru, c'est très violent, et en même temps, c'est toujours pris entre cette violence, mais qui est vraiment à nu, et puis qui est sublimé en permanence, donc on n'est jamais tranquille. Oui, c'est l'intranquillité, les livres de Jean Genet.
Quand on a cette admiration, vous en parlez magnifiquement, Véronique Olmy, comment on fait pour s'en détacher de ces mots, de ces souffles, pour les oublier ?
Ben alors, une fois que j'ai eu fermé surtout le miracle de la rose, qui parle précisément de mes traits, où se passe le livre... Je l'ai vraiment planqué. Je me suis dit, tu relis rien.
Ah, vous l'avez caché ?
Ah, je l'ai caché. Je me suis dit, même s'il y a un moment où tu as besoin d'une info, tant pis. Tu relis tes petites notes, tu l'oublies.
Dans le placard.
Oui, et je l'ai relu. Non, pas dans le placard, le pauvre. Et je Jean Genet au placard, ça fait toute la peine.
Je pensais le pauvre placard.
Ah, le pauvre placard, il aurait explosé. Il aurait fait comme la chanson de Trenet. Il aurait fait boum. Et je l'ai repris, imaginez-vous, une fois que le livre était imprimé. Oh, alors là, ça m'a fait encore des...
Mais c'est intéressant. En quoi écrire, c'est toujours oublier la voix des autres pour en inventer une nouvelle, Une voix qui vous soit propre, une langue qui vous soit propre.
Bah parce qu'en fait, moi, au départ, j'osais pas écrire. Au départ, je me disais, bah voilà, les gens que j'admire, Dostoïevski, Rilke, ils ont tout dit tellement bien. Et puis un jour, je me suis dit, bah, tout le monde est unique, donc je le suis. Donc la façon dont je vais dire quelque chose, personne d'autre ne pourra le dire ainsi. Alors ça m'a débloqué. Parce que sans ça, on est écrasé par les maîtres. Ils vont se dire, c'est des génies, si j'en étais un, je le serais. Ok, je vais admettre que je n'en suis pas un. Je suis moi, bah, je vais écrire moi.
Au fond, quel métier est-ce que c'est, écrire ?
Ah, moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. J'ai une chance inouïe. Il n'y a pas un jour où je ne me dis pas que j'ai une chance inouïe.
Et c'est un métier de démiurge aussi, Véronique Colmy. Un métier qui consiste à créer des mondes, c'est quelque chose quand même.
Moi, c'est toujours ce que je dis quand je donnais des ateliers d'écriture, j'en ai donné beaucoup, je disais toujours aux élèves, n'ayez peur de rien, de ce qui surgit de vous. N'ayez pas peur de trop de sentiments ou de trop de violence. Vous pouvez tuer votre mère, vous pouvez tout faire par écrit. C'est l'espace de liberté, c'est comme le rêve. Le rêve, parfois, on pourrait être gêné, on se dit, mon Dieu, mais de quoi j'ai rêvé. Ce sont des espaces sans mensonges. C'est ça qu'il faut admettre.
Tiriez-vous pour autant que l'acte d'écrire est un acte sacré ?
Moi, je trouve.
En quoi ?
Si on le prend au sérieux, c'est sacré parce que justement, on essaye de trouver les mots. La langue française est tellement belle. Et chercher, moi j'ai l'impression d'être une chercheuse de mots. Et de chercher le mot juste, vous savez, c'est comme un petit mécanisme de montre en fait. Et je ne dis pas que j'y arrive, mais cette recherche-là, appliquée, consciencieuse. David Grossman, que j'ai eu la chance de rencontrer, dit une chose magnifique. Il dit, le matin, quand je me lève pour écrire, je pense à tous les écrivains qui, par le monde, font la même chose que moi. Il est extraordinaire, cet homme. Bon, alors on est sur le même fuseau horaire, ça tombe bien. Et moi, souvent, le matin, je me dis, voilà. Par exemple, je sais qu'à 4h du matin, Véronique Ovaldé, elle est déjà en train d'écrire. Après, c'est Amélie Nothomb. Et je pense à tous ces gens que je connais et qui sont comme ça, dans le même trip que moi.
Je vous parle de sacré, vous me parlez de tripes. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le religieux, c'est un thème que vous abordez assez souvent, dans Bakita évidemment, mais aussi dans Cet été-là, dans Le Gosse. Quel rôle a joué la religion dans votre éducation, Véronique Colmy ?
Ah ben tout. C'est la mythologie de l'enfance, parce que moi je suis d'un milieu catholique très très fervent, très croyant, donc on respectait tous les rites. Et puis moi j'ai l'image christique qui est comme une sorte de colonne vertébrale, de fondation. D'ailleurs il en est beaucoup question dans Le Gosse de cet homme crucifié, enfin, c'est d'une violence inouïe, hein, et qui relève pas la tête, qui vous regarde pas en face, et qui est porteur de la souffrance. Et en même temps je me suis très très vite rendu compte que la religion, Jean Genet dit que la religion est un plafond. Alors qu'en vrai, le Dieu c'est dans le ciel. Et c'est vrai que la religion est un plafond. Moi j'avais l'impression que c'était une religion de la menace.
Très, très jeune ça. Quel rapport est-ce que vous entreteniez à la religion quand vous étiez enfant ?
Ben, j'aimais pas devoir aller me confesser. C'était quand même dingue. Alors, je disais jamais ce qu'il fallait, ce qu'ils attendaient. Je parlais jamais de ma sexualité. Je savais bien, je sentais bien qu'elle était interdite. Mais il y avait la honte quand même. On a souvent honte quand on est élevé dans une religion. Je pense que les trois religions monothéistes ont ça en commun, surtout quand on est une femme. C'est la honte et la culpabilité.
Véronique Colmy, à partir de quand avez-vous eu le sentiment de cesser d'être une enfant ?
Moi, quand je suis avec les enfants, je suis une enfant. Et c'est là que je me sens bien. Je me sens moi. Toni Morrison disait, c'est pas qu'on se détend quand on est avec des enfants. C'est qu'on se retrouve. Moi, je le sens, ça. Ça fait du bien.
Parce que c'est un texte sur l'enfance que vous nous avez écrit ce matin, dont je ne sais rien. J'aimerais bien que vous nous le lisiez.
Abandonné à 7 mois par sa mère, l'écrivain Jean Genet est placé par l'assistance publique dans le Morvan, chez une famille de nourricières, comme on disait alors. À 10 ans, il était un sacré bon élève et un jour, l'instituteur lut en classe sa rédaction, tellement brillante, et dont le thème était « Décrivez votre maison ». Mais en l'écoutant, les élèves s'étouffèrent de rire. L'instituteur leur demanda ce qui les faisait rire, alors ils le lui expliquèrent. « Monsieur, il ne peut pas décrire sa maison, puisqu'il n'en a pas. C'est un enfant abandonné. » abandonné, orphelin, placé, mis au dépôt, trouvé, ce sont tous des enfants sans maison et sans admiration. Aujourd'hui, les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance arrivent à l'école tous ensemble, dans un minibus blanc à quoi on les reconnaît. Alors bien sûr, dans la cour de récré, on questionne. Pourquoi t'es placé? Elle t'aimait pas, ta mère. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise pour qu'elle t'abandonne? C'est ce qu'ils racontent, ces gosses. Je ne l'invente pas. Je vous le rapporte. Les enfants des autres, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais alors, les enfants de personne? Les enfants d'on ne sait où? Les enfants qui arrivent d'ailleurs? Ceux, par exemple, qu'on appelle aujourd'hui les mineurs isolés. Voleurs, violeurs, selon les politiques d'extrême droite. Ils rejoignent les mauvaises graines, tarés, vicieux, comme disaient hier les plus humanistes des philanthropes, qui bâtissaient pour eux de jolies prisons en étoiles et des colonies pénitentiaires nichées au cœur des plus belles campagnes de France. D'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, n'oublions jamais que ces enfants au parcours cabossé ont été un jour pareils à vous, à moi, à nos descendants, à nos aïeux. Ils ont été portés par une femme qui les a mis au monde, qui a pour cela crié de douleur, et puis les a pris contre elle et les a regardés.
Merci pour ce texte, Véronique Colmy, merci pour ce regard. Et merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Le Gosse, votre nouveau livre, est publié chez Albin Michel. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, qui nous parle d'un formidable documentaire sur les Ouïghours. Je vais écouter juste après ça.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain, certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dive. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted. Less convoluted. More stillness, more movement. More existence, less improvement. More decisions, less solutions. Less inhibition, less confusion. More intuition, more connection. More nature, more protection. More abundance, more reflection. Less instruction, more comprehension. More pressure, more release. More relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
Wow, superbe. Kate Tempest et Kevin Abstract. More pressure.